France Inter. Le masque et la plume. L'actualité littéraire, c'est le programme de ce nouvel épisode du Masque avec Arnaud Vivian de Transfuge et de Regard, Elisabeth Philippe de l'Obs, de voix que vous entendez aussi sur Inter pour l'édito Culture à 9h40, le lundi pour Elisabeth et le mercredi pour Arnaud. À ma gauche, sortie de l'Eurostar ou quasi, puisque tu vis entre Londres et Paris, c'est Nelly Capriélian, des Inrecuptibles. Et pour terminer la présentation de cette tribune, merci d'accueillir Laurent Chalumeau, auteur, qui se décrit comme ceci, ancien rock critique qui a écrit des sketchs et compose des espèces de polars. Aujourd'hui, les livres au programme nous permettront de parler des années 80, d'un ami disparu, de drogue sous forme de cristal bleu et de la découverte d'une autrice suédoise. Il sera donc question de Fabriquer une femme, de Marie Dariussecq, Un soir d'été, de Philippe Besson, Les détails d'Ia Genberg et Fantastique histoire d'amour, de Sophie Divry. Bonjour et bienvenue pour Un masque et des plumes en public depuis le théâtre de l'Alliance française. Une phrase, une injustice et une déclaration d'amour, tel est le menu du courrier de la semaine. La phrase que vous avez relevée, c'est celle-ci. « Une boomer qui cancelle la génération suivante », se fut énoncé dans le débat critique pour le livre de Virginie Lénard, « Une sale affaire ». Anne de Chaise-Martin se dit perplexe et formule un vœu que les anglicismes soient bannis de nos micros. Quant à Mireille Tosi, elle trouve ça joli avant de signer « What the fuck ?» comme dirait Nanny Moretti. Les mails les plus nombreux concernent la virulence de cette tribune à l'encontre de la vie heureuse de David Foenkinos. Sergio, qui ne précise pas son patronyme, s'adresse directement à toi, Arnaud. Cet auditeur nous dit avoir écouté avec amusement en précisant que les romans de David Foenkinos lui faisaient penser à un essai de Cornelius Castoriadis dont voici le titre, « La montée de l'insignifiance ». Cela dit, beaucoup de courriers prennent la défense de David Foenkinos. Francine Delbar, par exemple, se demande pourquoi, je cite, « aiguiser des couteaux contre lui et le déchiqueter à belles dents dès qu'il publie un nouveau roman ». Cette auditrice soupçonne des raisons personnelles et conclut « je n'avais nulle intention de lire La vie heureuse, mais je vais l'emprunter en bibliothèque ». Une petite réaction, Arnaud ?
Je n'ai aucun contact avec David Foenkinos. Donc ce n'est pas du tout personnel, c'est que je lis ses livres. C'est ça le problème.
On ne va pas y revenir. Je rappelle au passage d'ailleurs que Patricia Martin avait défendu ce roman avec ardeur en commençant son intervention par « David, ne t'inquiète pas, j'arrive ». Enfin, Sophie Canquin m'écrit en commençant par « Cher Monsieur Garcin ». Cette auditrice dit avoir toujours été plus intéressée par la plume que par le masque. Selon elle, les romans qui font consensus ici sont délicieusement prometteurs et douteux. Elle glisse au passage que l'émission théâtre est beaucoup trop parisienne aux parisiennes, tandis que Nadine Gélin, qui vit en Ariège, précise « Chez moi, quel que soit le chef d'orchestre, Garcin ou Manzoni, cette émission est baptisée depuis et pour toujours « Le Basque et la Mule ». Le premier livre dont on va parler aujourd'hui s'intitule « Fabriquer une femme ». C'est le 20e roman de Marie Dariussecq. Et pour tenir la promesse de ce titre, Marie Dariussecq met en scène non pas une, mais deux femmes, déjà présentes dans des livres précédents. On retrouve donc Rose et Solange, deux meilleures amies, qu'on suit depuis leurs 15 ans jusqu'à l'âge adulte. Rose est une fille studieuse, sage, qui s'entretiendra essentiellement à Christian, son amour de jeunesse. En face de chez elle et en miroir, Solange fait figure de rebelle. Elle est enceinte à 15 ans, découvre le théâtre, la nuit, à Bordeaux, Londres ou Paris. Et pour chacune, c'est la découverte de la sexualité, de l'amour, d'un métier et finalement de la liberté qu'on s'accorde ou pas. C'est donc un roman d'apprentissage, autant que le portrait d'une époque et d'une génération qui a vécu son entrée dans l'âge adulte au tournant des années 80 et 90, avec entre autres la chute du mur de Berlin et la trouille du sida. Il y a aussi beaucoup de musique dans ce livre, beaucoup des tubes de l'époque chantés par Lio, Lerite Mitsuko ou Nirvana. Nelly, tu ouvres le bal ?
Ah oui, j'ai adoré ce livre. Alors que je ne me souvenais plus vraiment de Clève, autre roman de Marie d'Arrevecque, où apparaissent ces deux personnages féminins. Et moi, cette plongée dans le Paris des années 80, enfin, il y a une partie qui se passe au Pays Basque, parce qu'elles viennent, comme Marie d'Arrevecque, du Pays Basque. Mais avoir 18 ans, 20 ans dans les années 80, j'ai le même âge que Marie d'Arrevecque, et ça m'a rappelé plein de choses. C'est d'une justesse. C'était pour qu'on n'avait pas des portables, donc on était tout le temps. Il y a tous les passages quand elles vont au bain.
Tu es allée au bain.
J'allais au bain la nuit. Alors j'ai pas passé la nuit avec Prince, mais on sentait que c'était possible de coucher avec Prince. C'était hyper excitant d'aller au bain. On couchait avec personne, mais on aurait pu. Voilà. Y avait cette proximité, voilà. Il y avait cette fraîcheur. On voit aussi tous les dangers dans lesquels elles peuvent tomber. Il y a la découverte du sexe, hein, qui est, je trouve, vue par les filles, très drôle. Je trouve qu'il y a un humour. Alors, j'adore son ton, sa voix. Je trouve qu'il y a une espèce de maîtrise incroyable. Enfin, elle aborde la gravité, parce que c'est pas juste rigolo et tout ça. Il y a une forme de gravité, de mélancolie. Il y a quand même une des héroïnes qui va avoir un enfant très très tôt, à 15 ans.
Oui, ça c'est au début du livre.
Oui. Je trouve que cette espèce de... Je suis assez fascinée avec... Mulholland Drive, c'est un des films préférés. Donc, une espèce de dualité, de double portrait de femmes qui se reflètent l'une dans l'autre. Pour moi, c'est les deux aspects de Marie d'Arrevecque. Et là, on voit qu'elle fait une espèce de double portrait, c'est-à-dire à la fois deux parties d'elle-même, c'est-à-dire quelqu'un qui est très sérieux, qui a fait des études, qui s'est marié, qui a eu des enfants assez tôt, etc.
Et quelqu'un qui aime les
et quelqu'un qui aime aussi la fête, voilà, la séduction, etc. J'ai des petites réserves quand même sur deux, trois moments qui sont un peu clichés dans le livre, hein, notamment la carrière hollywoodienne de Solan, enfin, qui n'a pas vraiment de carrière.
Voilà.
Ouais. Je trouve qu'il y a des moments qui m'ont paru un peu pas vraisemblables.
Arnaud, est-ce que tu es allé au bain dans les années 80, toi ?
Non, pas du tout. Je n'allais pas du tout au bain. Il y a un concert de Noir d'Aise, ou d'ailleurs, pour la pointe de Noir Désir, mais on disait de Noir d'Aise à l'époque. Et d'ailleurs, c'est le seul moment où Marie d'Arrevecque quitte son unité de temps, parce qu'elle se sent obligée de préciser qu'à l'époque, le chanteur n'avait encore tué personne. C'est... Au début, les 50 premières pages, je me suis dit, mais bon, ça va bien, elle l'a déjà écrit, ce livre, c'est Clève. C'est Clève où elle avait effectivement raconté la fabrication d'une femme. Ça a commencé par le premier chapitre s'appelait « Les avoir ou pas ». Il s'agissait évidemment des règles, c'est-à-dire de l'entrée dans la puberté. Et donc au début, j'ai compris que, parce qu'en fait, le personnage principal dans Clève, qui est plutôt
Solange,
ouais. Voilà. Là, c'est plutôt Rose qui est Marie d'Arrevecque, hein, puisque elle fait des études pour devenir psychanalyste. Passage qui m'a beaucoup plu d'ailleurs. Est très très bien vu, mais faut se souvenir c'était il y a 12 ans, je crois, Clef, c'était en 2012, ça avait été un scandale à l'époque, parce que elle utilisait énormément les mots bit et chat, et donc je me souviens
que le journal Le Monde
avait décidé de publier un avis contre le livre, qui était évidemment écrit par un homme, Jean-Philippe Domecq, qui est critique et essayiste, et il y avait un avis pour le livre, et ça montre combien Le Monde a changé, hein, de cette manière, qui était écrit par Virginie Despentes. C'est Virginie Despentes qui avait pris la défense de Marie d'Arrevecque à l'époque, donc de Clève. Donc au début, voilà. Et puis, en fait, on est emballé par l'entrain qu'il y a dans l'écriture de Marie d'Arrevecque. Elle a trouvé une manière d'écrire, c'est-à-dire qu'elle fait des petits paragraphes. Il n'y a pas de chapitre, hein, dans ce livre, il y a deux parties. Et donc, il y a une force motrice de l'écriture qui, évidemment, en plus, qui est pleine de joie. Il y a vraiment, on sent qu'elle jubile en écrivant, ça c'est fort. Il y a des très beaux portraits d'hommes. Marco, dans la première partie, je trouvais un personnage absolument incroyable.
Qui est patron de bistrot, qui se la joue.
Qui est patron de bistrot, qui initie les jeunes en fait, hein, qui a du vécu, qui a de la
culture. Il est un peu épouvantable aussi.
Et en même temps, qui est un peu épouvantable dans son activité sexuelle.
Une fois qu'il joue les Che Guevara.
Et puis le très beau portrait de Brice, un haïtien qui va devenir.
Ami et amant de Solange.
Voilà, et qui devient un personnage de la mode, qui lui explique en fait les codes de la mode et de Paris. Et ça, pour le coup, je suis pas allé au bain, mais des personnages comme Brice, j'en ai rencontré, et c'est vraiment très bien fait. Petite réserve comme Nelly sur la fin hollywoodienne, parce que là, on sent que elle imagine trop et qu'il y a, bon, voilà, une volonté d'en finir avec le roman. Hein, c'est que
oui,
faut bien
ça.
Trouver.
Si, j'ai eu l'impression.
Voilà, il faut bien trouver une fin. Ouais. Mais voilà, mais enfin quand même. Grand plaisir de lecture.
Et pour toi, Laurent ?
Alors moi, j'ai dévoré ce livre. C'est le premier des livres au programme de cette émission que j'ai lu. Et je me suis dit, ça commence bien. Parce que ce n'est pas forcément un livre que j'aurais lu sans cette participation. D'ailleurs, c'était le premier livre de Marie Dariussecq que je lisais de ma vie. Ce que je bénis et déplore à la fois, parce que je comprends maintenant que si j'avais mieux connu son œuvre, j'aurais peut-être pris encore mieux la mesure des qualités que ce livre me semble afficher. Il y a une blague hollywoodienne, pour rester dans le sujet, qui dit que un metteur en scène, quand il commence un film, considère qu'il va faire un chef-d'œuvre. À mi-chemin du tournage, il se dit qu'avec un peu de chance, il va réussir à faire un pas trop mauvais film. Et quand il arrive au bout du tournage, il est juste content d'avoir fini. Moi, ça a été le processus strictement inverse. J'ai commencé le livre sans trop savoir où j'allais, mais j'étais donc content de le commencer. Chemin faisant, je me suis dit, putain, il y a quelque chose là quand même, il y a quelque chose qui se passe. Et arrivé au bout, un chef-d'œuvre, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est un très, 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 très bon livre, de mon point de vue. Enfin, c'est un très bon livre, d'abord parce qu'il est extrêmement agréable à lire. Il fait, je ne sais pas quoi, 400, 450 pages. Je les ai descendus en 48 heures. Vraiment, c'est une piste verte, parce que la prose de Dariussecq est d'une totale fluidité. Il y a pas de grumeaux, l'œil n'accroche sur rien. On est happé, on est emballé. Il y a un truc qui est sûr, c'est que les morceaux de bravoure technique abondent. Il y a des scènes dont elle tire tout le profit, tantôt comique, tantôt tragique. Mais là, c'est que de la tambouille, c'est que de la technique. Mais elle est vraiment en maîtrise totale de son artisanat. Je terminerai juste en disant que je ne saurais pas dire quel est le style de Dariussecq. Parce que je suis d'accord avec tout ce qui a été dit à propos de l'élégance et de l'efficacité de sa phrase, mais c'est quand même assez composite, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle pousse son caddie dans les allées du supermarché qui est ouvert par la littérature française depuis 10 ou 20 ans, c'est-à-dire qu'il y a un peu de phrases métalliques à la Houellebecq, un peu d'écriture plate à la Ernaux, un peu de néo-naturalisme à la Nicolas Mathieu, mais sans que ça fasse Frankenstein, c'est-à-dire c'est en fonction du terrain, elle adapte, mais parfois à l'intérieur du même paragraphe. Donc c'est une musique absolument entêtante, très efficace, mais je ne saurais pas la qualifier précisément.
Alors est-ce que la Tribune est unanime, Elisabeth ?
Oui, elle est unanime. Moi, c'est le livre de Marie Dariussecq que j'ai préféré, je pense. C'est peut-être son meilleur, c'est toujours un peu facile de dire ça, mais et je rejoins absolument ce que disait Laurent sur ce style qui est en permanente mutation, évolution, métamorphose. Et il y a vraiment... Donc c'est très 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 rapide, ça fuse, et c'est encore plus rapide quand on est dans la partie sur Solange. Le style se fait beaucoup plus heurté, comme pour marquer la violence aussi qui marque la vie même de Solange. Et puis il y a ce titre qui est très beau, Fabriquer une femme. Pour moi, il vient un peu en prolongement de la fameuse réflexion de Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Et là, Marie Dariussecq, tu parlais d'artisanat, Laurent, pour moi, elle est vraiment comme un maître horloger qui va démonter le mécanisme, qui va déconstruire son personnage pour montrer comment on devient femme. Et elle montre très bien que c'est un mélange de choix et de déterminismes sociaux, parce que la question des classes sociales est aussi très importante. Rose, elle vient d'un milieu plutôt bourgeois.
Solange, c'est un milieu plus populaire.
Seule avec sa mère qui travaille dans une petite boutique de souvenirs très très moche. Mais jamais elle ne fait de théorie, Marie Dariussecq. Ça passe toujours par la littérature, ça passe par le corps de ses personnages, ça passe par ses phrases. Et c'est ça qui est magnifique. On verra peut-être avec d'autres livres que avec les mêmes ingrédients, on n'arrive pas forcément au même résultat. Et Nelly parlait de Mulholland Drive. Moi, ça m'a fait penser, en fait, j'y ai pensé là en venant à l'émission, aux mémoires de deux jeunes mariés de Balzac, qui est le roman épistolaire de Balzac entre deux jeunes mariés, donc, et leur trajectoire un peu croisée, où il y en a une au départ, on pense qu'elle fait un beau mariage, et en fait, ça va être la calamité. Et là, je retrouvais absolument ça. Et puis, ce qu'elle dit sur l'adolescence, c'est prodigieux.
C'est ça qui est bien, c'est justement c'est le classicisme de la structure.
Exactement.
Parce que ça, on le connaît, deux personnages, etc. Mais là, en fait, elle arrive à donner de la modernité à cette structure extrêmement classique.
Oui, et même si on n'a pas été ado à cette époque, moi j'étais pas tout à fait ado dans les années 80, mais ce qu'elle dit de l'adolescence, on l'a tous vécu. Enfin, je veux dire, les fêtes qu'on fait chez ses parents et le lendemain, on est obligé de mettre le tapis sur la moquette pour cacher la tache. Ou,
les premières fois.
Le tapis sur le vomi, tu veux dire.
Oui, non, mais c'est vraiment un livre extraordinaire.
Fabriquer une femme, donc, de Marie Dariussecq, qui est édité chez POL. Il va falloir aller un petit peu plus vite sur les ouvrages suivants, messieurs, dames. On passe donc à Un soir d'été de Philippe Besson.
Ça va aller plus vite, hein.
C'est marrant, je m'y attendais. L'été en question, donc, est celui de l'année 1985, les années 80, décidément. Mais là, on n'est pas au bain douche. Des jeunes gens entre 18 et 20 ans se retrouvent en vacances sur l'île de Ré, à une époque où l'île de Ré n'est pas encore... Il rigole d'avance, Arnaud. N'est pas encore relié au continent par un pont, donc pas encore envahi par des gens chics, pour faire court. Ils sont 6, 5 garçons et une fille venus de milieux et de villes différentes. Certains sont du coin. 6 jeunes adultes réunis à la faveur de l'été et de leur insouciance... sans portable, là encore, ni écran. Des jeux de séduction, des relations s'esquissent jusqu'à la disparition de l'un d'entre eux. Le récit est mené par Philippe Charentais, et futur étudiant d'une école de commerce, exactement comme le fut l'auteur Philippe Besson. Il nous est précisé d'ailleurs dans la quatrième de couverture que cette chronique de la perte de l'innocence est inspirée d'une histoire vécue. Nouveau récit autobiographique de Philippe Besson, donc, qui est en tête des ventes en ce moment avec ce roman. Allez, Arnaud, c'est à toi.
Alors, Laurent disait que c'était la première fois qu'il lisait un livre de Marie Dariussecq. Moi, c'est pas la première fois que je lis un livre de Philippe Besson, mais c'est la première fois que je lis un de ses romans. J'avais malheureusement été obligé de lire, pour Le Masque et la Plume, le récit de la campagne électorale d'Emmanuel Macron, que Philippe Besson a signé en 2017. Donc, c'était évidemment la première élection. On sait qu'il est très ami, il n'arrête pas de le répéter sur les plateaux de télévision avec notre président de la République, au point d'ailleurs... qu'il a cherché à devenir consul de Los Angeles.
Mais parlons d'un soir d'été.
Oui, alors, un soir d'été, justement. Alors, un soir d'été, donc c'est la première fois que je lisais un roman de Philippe Besson. Et j'ai, comment dire, j'ai l'impression qu'il l'a écrit d'abord pour une raison, c'est de nous expliquer qu'il a des origines prolétaires, qu'il a été à l'île de Ré avant que Bouygues construise le fameux pont du scandale, et donc qu'il a été copain avec le fils du boucher. J'ai l'impression que c'est quand même le motif principal de son livre, c'est de nous expliquer que non, il est copain avec Macron, mais lui, il a quand même des origines prolétaires. Je trouve que à un moment, je me suis dit, j'ai commencé à lire ça, j'ai eu une espèce de flash terrible, c'est que m'est revenue en tête une chanson de Michel Jonas qui s'appelle « Les vacances au bord de l'eau ». Et c'était comme
les vacances au bord de la mer.
Les vacances au bord de la mer, merci Rebecca.
Et succès des glaces à l'eau.
Mais voilà. Oui. Et c'est des prolos qui n'ont pas les moyens et donc ils regardent les bateaux en suçant des glaces à l'eau. Et soudainement, j'avais ce truc là dans la tête qui est inexpugnable. C'était
attention
horrible.
Où tu vas avec les glaces à l'eau sucées. Enfin bon, je dis ça bien.
Et à un moment, page 47, Besson décrit la seule jeune fille d'ailleurs de ce récit, et il dit « elle porte des sandales dorées », et il ajoute dans une parenthèse « ces sandales dorées m'ont marqué, j'ignore pourquoi ». Alors, je me suis dit, là, il y avait un livre. C'est-à-dire qu'il aurait pu faire ensuite le récit en nous expliquant de manière un peu proustienne pourquoi il avait retenu ses sandales dorées et alors qu'il ne sait pas pourquoi elles lui sont restées. Et là, je pense qu'on aurait eu un grand livre. Et finalement, non, on a une petite histoire qu'on a déjà vue dans 35 téléfilms sur France 3. Et voilà.
Est-ce que tu as pensé à des chansons, toi, Laurent, à la lecture de Un soir d'été ?
Absolument pas, mais ça me fait plaisir de savoir que le livre est en tête des ventes parce que ça rejoint une impression que j'ai eue en le lisant. J'avais pas lu le quatrième de couverture, j'essaye d'éviter, et comme ça je suis surpris. Alors, effectivement, les premières pages m'ont décontenancé parce que je me disais, ça n'est que ça, enfin, parce que c'est un peu Martin à la plage, où oui, oui, aime les garçons.
Il s'appelle Philippe.
Mais cette impression évolue. La chronique de l'été de tous les dangers vire au drame, et puis il y a quand même des choses plus intéressantes qui se dévoilent, et puis surtout, on voit quand même à l'œuvre un réel savoir-faire. Il y a un savoir compter, il y a un plaisir à raconter des histoires, il y a une jubilation à faire des phrases, et je pense que le Philippe Besson est mal packagé ou marketé. Et là, je suis sérieux comme un cancer de l'anus quand je dis ça. C'est Philippe Besson a toutes les qualités pour devenir, un grand écrivain de fiction populaire à succès. C'est-à-dire de ses livres qui sont vraisemblablement pas de la littérature, mais qui sont de la lecture, qui donnent du plaisir à plein de gens. Je pense que Philippe Besson a tout pour devenir une immense vedette. Je ne connais pas Philippe Besson, mais pour l'avoir vu 2-3 fois s'exprimer à la télévision, j'ai l'impression qu'il ne détesterait pas devenir une immense vedette. Mais il faut... Non mais j'essaye de dire ça avec bienveillance. Il faut que lui et son éditeur assument. Au contraire, mais il devrait être fier. C'est un écrivain populaire, mais clairement, ce n'est pas par lui que la littérature va advenir.
Elisabeth.
Oui, non, mais c'est ce que je commençais à dire en parlant du livre de Marie Dariussac, qui a exactement les mêmes ingrédients. C'est-à-dire, c'est l'adolescence, c'est les années 80, et il y a cette question des classes sociales, sauf qu'il manque un ingrédient quand même assez important, c'est la littérature. Et parce que l'écriture de Besson est vraiment plate, comme, je sais pas, comme une crêpe sans supplément œuf. Enfin, c'est vraiment, c'est plat. Alors pourtant, il essaye de mettre de la littérature. Il y a certains mots écrits en italique, on sait pas pourquoi, c'est peut-être un peu aléatoire. Il met une citation de Marguerite Duras en épigraphe. Il essaye parfois de faire du Duras. Il écrit par exemple, il avait des mots justes, profondément justes. On pense évidemment au sublime, forcément sublime, mais il suffit pas de mettre 2 fois le même adjectif pour faire du Duras. Et puis ce ne sont que des clichés. Rebecca, tu disais en introduction, on est dans les années 80, il y a pas de portable. Ah ben, il le répète à peu près toutes les 10 pages, au cas où on aurait un peu oublié que dans les années 80, il y avait pas de portable.
C'est l'une des raisons pour lesquelles
le drame, il est annoncé avec la subtilité de la boîte à rythme de la chanson Macumba de Jean-Pierre Madère. Enfin, c'est-à-dire que tous les 3
alors,
paragraphes...
Michel Jonas, dit... les vacances au bord de la mer, Macumba, Jean-Pierre Madère, c'est la playlist.
Non, mais c'est pas la chanson à laquelle j'ai pensé. Moi, j'ai pensé à Un amour de vacances de Christophe Ripper.
Alors ça,
je ne ferais peut-être pas l'affront de la chanter. C'était, alors ça, c'est plus ma génération. C'était dans Premier Baiser. C'était Luc dans Premier Baiser. Et c'est Un amour de vacances, une histoire sans lendemain, mais à laquelle on repense les yeux pleins de chagrin. Ben, ça aurait pu être écrit par Philippe Besson.
Tu vas faire des vers aussi en parlant de Un soir d'été, Nelly.
J'ai raté cette chanson. C'était à haut niveau poétique. Non, moi j'ai toujours un peu ce problème avec Tesson. Non pas que j'en ai lu.
Besson,
ouais, tu vois, ben, Tesson aussi. Il y a beaucoup de Besson. Il y a beaucoup de Tesson. Et en préparant l'émission, je me suis dit ne pas confondre avec Luc Besson, ne pas confondre avec Patrick Besson, parce que Philippe Besson, c'est quand même un peu le gentil de cette brochette. Et évidemment, je me plante avec Tesson. Ça, c'était, je devais le faire. Non, le problème, c'est que j'ai eu une impression de déjà lu, de déjà vu. Il n'y a pas d'idée originale. Non, moi, ça commence comment? Alors, le narrateur qui est adulte croise quelqu'un qui lui rappelle quelqu'un qu'il a connu quand il... Et hop, on bascule. Alors ça, c'est un truc que Modiano fait de façon extrêmement brillante et qui est de toute façon... Soit on est Modiano, soit c'est scolaire. Donc on ne va pas dans ces parages. Ensuite, la disparition, on ne retrouve pas... Enfin, je raconte un peu.
Bon, pas trop,
vous allez
pas
le lire
trop.
Ou pas? Ouais, bon, oui, vous savez pas. Bon, ok. Je raconte pas trop. Bon, il y a quelque chose qui, moi, me rappelle, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu, cette histoire de disparition. La fin, alors là, je raconte la fin, c'est pas la toute fin, c'est la page d'après. Où normalement, on a des remerciements. Alors là, la grande mode des remerciements, dans tous les sens. Là, il ne remercie personne, mais il met, comme dans les films des années 60, qu'est-ce que sont devenus les gens après? Et c'est totalement plat. C'est-à-dire, ils vivent ensemble quelque chose de très fort. Et, enfin, pas dans le roman, mais voilà, s'ils existaient, ça aurait été très fort. Et à la fin, c'est juste qu'ils sont devenus. Alors, il y en a un qui est toujours bouché. Ouais. Ça n'a aucun intérêt. C'est quand même une platitude absolue. Donc voilà, je crois que j'ai contribué à.
On clandoucle.
À la défaite de.
Un soir d'été de Philippe Besson, qui est publié chez Julliard. Le roman suivant est signé d'une Suédoise, autrice de 4 livres, dont le dernier est le seul à être récemment traduit en français. Cette autrice s'appelle Ia Genberg. C'est une découverte. et une révélation pour ma part. Son roman s'intitule « Les détails », le récit d'une vie saisie par bribes et un éloge de la littérature en même temps. La narratrice se raconte à travers le portrait de quatre personnes avec qui elle a noué des liens très différents. Un grand amour, une amitié fusionnelle, un coup de foudre. Et je ne vous révélerai pas l'identité de la dernière personne parce que je trouve que ça vous cueille au détour d'une phrase. En Suède, le livre a rencontré un grand succès public et critique. Il fut lauréat du prix Auguste, qui est l'équivalent du Goncourt ici. Je n'ai pas tout dit, mais je te laisse poursuivre. À toi, Elisabeth.
Oui, alors au départ, je ne savais pas trop quoi penser de ce livre. Donc ça commence, elle est malade, elle a une forme,
elle a la fièvre.
Et ce motif de la fièvre, il va courir tout au long du roman, prendre différentes formes, que ce soit la fièvre passionnelle, la fibrillité psychique. Enfin voilà, la fièvre, c'est vraiment le motif qui court tout au long du roman. Et je trouvais que c'était absolument pas, ça passait pas dans son écriture, cette ardeur. Au contraire, c'est une écriture très ténue. Et je disais, mais c'est assez anecdotique, je vois absolument pas où elle veut nous emmener. À un moment, elle dit ça elle-même d'un livre, d'un roman que sa colocataire folle, puisque un des portraits, c'est celui de Nikki, une colocataire complètement fantasque, mythomane, qui raconte n'importe quoi, qui est totalement folle et qui a un livre préféré. Et la narratrice dit, moi, je ne comprends pas pourquoi elle aime ce livre, je vois qu'il y a quelque chose d'intéressant, mais je n'arrive pas à voir quoi. C'est comme l'image d'un téléviseur brouillé. Et pour moi, les premières pages, enfin même la moitié du livre, c'était un peu ce téléviseur brouillé, et parce que c'est très ténu justement. Et à un moment, elle participe à un atelier d'écriture et l'animateur de cet atelier lui dit qu'elle a une attention mélancolique aux détails. Et c'est effectivement l'accumulation de tous ces détails qui nous fait prendre conscience de ce qui la nourrit, de ce qui l'habite.
Et de qui elle est.
Et de pourquoi justement elle met cette ardeur à distance aussi. Cette ardeur qui a pu être destructrice dans sa vie, on le comprend à la fin du roman notamment. Et on comprend en quoi la littérature, dont elle fait effectivement un très bel éloge, lui a permis de construire une forme de citadelle pour s'abriter et se défendre contre cette fièvre extrêmement toxique et dangereuse. Donc ça donne un roman assez étrange, mais plutôt touchant et très délicat.
Arnaud, rapproche-toi du micro.
Plutôt une bonne surprise, en fait. J'étais,
comment ça, en fait? Mais tu manges des bonbons.
Oui, je mange un petit tic-tac. Ah, oui.
Voilà. Ça fait de la radio et ça mange des bonbons en même temps.
Tu
veux que je passe la parole à Laurent le temps que tu aies mangé ton bonbon?
Non, c'est bon.
Ça va aller, je peux
le faire.
Okay.
Bon, il n'y a pas de quoi se relever la nuit non plus, mais c'est plutôt une bonne surprise. Je pense que le mot roman est peut-être un manteau un peu grand pour ce qui ressemble quand même un peu à un empilement de novellas, parce qu'en fait, il s'agit quand même de grosses nouvelles, quoi. Ils font 50 pages chacune, il y en a 4. Et à chaque fois, il s'agit quand même d'un portrait. Moi, j'ai préféré le troisième portrait, qui est celui d'un danseur dans un groupe de rock. Ce qui est assez beau, c'est comment, parce que ces novellas sont reliées, l'air de rien, c'est que le temps passe. Ça commence dans les années 80 et ça se termine dans les années 2000, enfin avec le...
Mais c'est
le
pas chronologique, hein.
Le réveillon de l'an 2000. Enfin, on voit quand même un glissement comme ça dans le temps. C'est assez habile, ça passe évidemment par les détails. Mais enfin, juste quand même, et je voudrais juste dire une chose, c'est que là, on vient de parler de trois livres qui sont exactement sur le même schéma, c'est-à-dire qui nous parlent des années 70, des années 80, des années 90, c'est-à-dire qui parle, je suis désolé pour la dame du courrier des lecteurs, aux boomers que nous sommes tous autour de cette table, mais qui ne peuvent pas parler aux millennials parce qu'ils n'ont pas les repères, ils n'ont pas les souvenirs, ce qui quand même, ça fonctionne sur l'idée que nous nous souvenons. Et donc ce livre-là, comme celui de Darius Seck, comme celui de Philippe Besson, marche sur l'idée que le lecteur ou la lectrice a des repères temporels correspondant à ce qui est raconté.
Laurent.
Alors, j'ai pris du plaisir à la lecture de ce livre, que j'aurais évidemment pas lu si c'était pas agi d'en dire quelque chose ce soir, mais ça a été une douce violence. J'ai été dérouté par ce livre. Je vais juste partager mes deux perplexités, qui sont absolument pas des critiques, mais juste des étonnements. C'est-à-dire que c'est un livre, alors que les phrases sont denses, touffues, qu'elles sont chargées de charrier des explications souvent très sophistiquées, justement dans le décodage, le décryptage des détails dans lesquels, comme chacun sait, l'enfer se niche. Donc des phrases qui pourraient être accablées et lestées, en fait, sont ourlées avec des jolis pleins, des déliés. Donc une très belle traduction.
D'Anna Postel.
Le dispositif est futé. Clairement, la fille qui écrit ça l'est également. Donc tout va bien.
Mais
curieusement, Alors qu'on parle souvent du tout supérieur à la somme de ses parties, là, ça me fait l'effet d'être un tout inférieur à la somme de ses parties. C'est-à-dire que, isolément, les éléments sont balèzes, mais le livre n'est pas aussi génial qu'il devrait l'être. Et autre perplexité, c'est que, alors qu'il s'agit d'amour, de passion, le sexe est complètement absent ou n'est évoqué que de façon quasi négative ou problématique. C'est-à-dire, bon, il y a déjà des personnages qui ont été victimes d'abus et exposés au versant le plus obscur du désir masculin. Donc évidemment, là, il ne s'agit pas de célébrer la fête des sens. Mais même quand ça se passe bien entre filles ou entre filles et garçons, ma foi, c'est pas... Par exemple, Philippe Besson, lui, fait... Non, mais je rigole pas. Il fait vivre les corps. Au moins, il repère le sexe de ses copains dans leur maillot moulburne. Alors que là, c'est... Peut-être parce que c'est suédois, je ne sais pas. Mais c'est... Non, mais c'est problématique.
Justement, c'est le contraire.
Nelly.
Non, moi, j'ai adoré. J'ai commencé comme Elisabeth, en me disant où est-ce qu'elle veut en venir. Ça a l'air gentillet, bon, tout ça. Et puis après, quand j'ai vu toutes les ramifications entre les chapitres, j'aime beaucoup cette façon de par le prisme des personnes qui ont compté dans sa vie, faire un roman. Ben évidemment, parce que qu'est-ce qui compte dans la vie, c'est les personnes qu'on a aimées. C'est évidemment ça. Et en fait, pour moi, c'est pas les détails. Là où elle se plante, c'est son titre. Ce sont les circonstances, parce que la vie, ce ne sont que des circonstances. Nous sommes le jouet en permanence de circonstances.
Et parfois, ce sont les amis qui vous choisissent.
Voilà. Et là, elle montre les circonstances qui, à un moment donné, bah, ça arrive comme ça, au détour d'une phrase. Elle est très très forte pour les surprises. Là où on s'y attend pas du tout. Et là, on se rend compte qu'elle a eu un enfant avec cette passion qui aurait dû être une histoire de sexe.
Oui, c'est dit au détour comme ça, comme si
rien
n'était.
Et au détour, bah, il y a un enfant quand même qui est né. Ça a complètement marqué sa vie, cette histoire, ce type qui a complètement disparu dans la nature par ailleurs. Ça, je trouve ça magnifique. Et c'est le dernier chapitre. Alors là, je sais pas s'il faut...
Faut pas trop dire.
Non, faut pas trop...
Qui est le plus beau.
Alors, vous me croyez sur parole. Qui est magnifique. Mais j'en ai des frissons. C'est magnifique. On découvre aussi, au bout de quelques pages, qui est cette personne dans sa vie. Donc ça, on va pas le dire non plus.
Voilà.
Et là, on voit... tout ce qu'elle raconte, et c'est comment on est agi en permanence par des circonstances. Il y a aussi en filigrane l'écriture. Elle n'en fait pas des tonnes sur « je souffre de ne pas réussir à écrire ».
Non, mais
c'est
en même
pas
temps,
très loin de Dario Sec, pardon, je termine juste, sur un ton aussi qui est à la fois mélancolique et drôle, lumineux et tragique, dramatique et léger. Enfin, moi, j'ai trouvé ça sublime.
Ça me fait très plaisir. Les détails d'Hagenberg, traduit du suédois par Anna Postel et publié par une maison d'édition marseillaise qui s'appelle Le bruit du monde. On termine avec Fantastique histoire d'amour de Sophie Divry, dont l'un des épigraphes est une citation du pape François que je vous lis. Cependant, je veux insister sur le fait que l'amour est plus fort. On suit d'abord Bastien Fontaine, 41 ans, inspecteur du travail, qui s'est fait plaquer, célibataire à tendance misanthrope. Il est aussi catholique, assiste à la messe chaque dimanche. Lapsus. Assiste à la messe chaque dimanche et parfois avec un certain taux d'alcoolémie. La vie ordinaire s'écoule jusqu'au jour où Bastien est prévenu de la mort d'un ouvrier dont le corps a été broyé dans la compacteuse d'une usine. On bascule ensuite dans la vie de Maya Di Natale, journaliste scientifique, qui se retrouve à rédiger un article sur un nouveau matériau qui s'appelle cristal scintillateur. Quel est le rapport entre le compacteur et le cristal ? À vous de lire. Ce septième roman donc de Sophie Divry mêle fantastique, romance, comme le titre l'indique, mais aussi les registres du thriller, du gore, de la comédie et de la satire sociale. Je vous ai cité que deux personnages du livre, mais il y en a toute une myriade, dont une chercheuse qui s'inquiète de voir son invention devenir diabolique, ou encore un curé attentif qui a la bonne idée d'apporter du gigondas au dîner. Laurent.
Alors, c'est
As-tu
pas
du... aimé ah, une oui. fantastique histoire
oui, oui.
d'amour
c'est, hein. c'est pas du tout le livre que je pensais lire.
Décidément.
Non, mais parce que non, mais là, pour le coup, j'étais très excité parce que j'aime beaucoup Sophie Divry, sans avoir lu tous ses livres, mais j'étais très impatient. Et à la page 150, j'ai vu le centre de gravité du livre se déplacer. Alors, il avait dû commencer avant, mais j'étais dans le déni. Et en fait, au début, je pensais lire une étude de mœurs, comme elle sait très bien en faire, avec des phrases qu'on a envie de noter, des observations toujours très justes sur la vie, l'amour, la mort, la coiffure. Et je pensais que ça allait continuer comme ça pendant 400 ou 500 pages. Et puis, au bout de 150 pages, il a bien fallu que je me rende à l'évidence. C'est un thriller. Et une fois qu'on comprend que c'est un thriller, on s'émerveille de voir comment Sophie d'Ivry joue avec les codes. Alors, l'histoire du jeu avec les codes, c'est devenu une tarte à la crème parce que tout le monde joue avec les codes. Sauf que là, elle, il y a quelque chose de très original, et je terminerai là-dessus, dans la façon dont elle enrôle le lecteur à son insu dans le mouvement de sa narration. C'est-à-dire que dès lors qu'il s'agit d'un thriller, encore plus que dans un autre genre, il y a des passages obligés, des scènes charnières toujours un peu chiantes à écrire, qui risquent de l'être également à la lecture. Et elle, très habilement, ces passages obligés, elle les piège, elle les lézarde. C'est-à-dire qu'elle va introduire une ellipse. Et le lecteur, en fait, avec l'habitude qu'il a de ce type de littérature, comble les manques et se retrouve, sans s'en rendre compte, embarqué avec d'Ivry.
Tu devais faire court, la parole est à Laurent.
J'ai adoré. Ça m'a fait penser, en fait, au roman qu'écrivait René Belletto dans les années 80. Non seulement parce que ça se passe à Lyon, comme les romans de René Belletto, mais parce que lui aussi savait introduire le fantastique dans le roman noir, qui normalement, le mélange des genres, impossible. Faut pas s'y risquer, lorsqu'on est auteur de polar, à introduire du fantastique, et c'est ce qu'elle réussit parfaitement ici, comme le faisait très bien Belletto, qui avait écrit un roman qui s'appelait La Machine. D'abord, le fait de prendre un inspecteur du travail comme personnage, ça nous change quand même du sempiternel flic.
Inspecteur du travail catholique.
Oui, catholique et alcoolique. Donc les gars...
Et dépressif.
Il est dépressif.
Mais c'est quand même dépressif. Un type qu'on a envie d'inviter à boire un coup.
Quand même, pour une raison bien précise, quand même.
Ah, moi, je l'adore.
Et journaliste scientifique, quand on connaît un peu la presse, les journalistes scientifiques, dans un petit journal indépendant, c'est très, très bien décrit aussi le travail même, les problèmes économiques.
C'est à la fois fantastique, mais en même temps, c'est très documenté sur la réalité concrète des métiers.
Sur la réalité, moi, je trouve ça juste parfait. Et là, on a un roman, si je puis dire, qui ne joue pas sur nos souvenirs d'enfance ou d'adolescence.
Qui est addictif. Mais pas pour Nelly, je crois.
Non, moi-même pas du tout. Alors que j'ai failli me laisser prendre, mais j'ai calé page 200. Je ne vais pas demander si je peux raconter la fin ou pas. Ce qui m'amuse avec Sophie d'Ivry, c'est la première fois que je la lisais, je n'ai jamais lu Sophie d'Ivry, c'est que là je vois qu'elle est invitée sur tous les thèmes, parce qu'il y a tellement de thèmes dans son... Donc elle fait une interview sur le catholicisme et comment être chrétien, elle fait une interview sur c'est quoi l'amour, sur la chrétienté, sur la religion, elle fait une interview scientifique, elle fait une interview sur le thriller, elle nous donne les clés, elle donne les clés aux écrivains pour être invité absolument partout. C'est casé plein de sujets et vous aurez plein d'interviews. Mais je trouve qu'il y a trop de choses. Voilà, il y a trop de choses. Elle a voulu trop mettre de choses dans son livre. Et c'est vrai qu'on part sur un... Je ne sais pas si c'est un thriller, enfin le mot est grand, mais en tout cas sur une enquête. Et tout d'un coup, ça ralentit. Enfin, Derrick à côté, inspecteur Derrick, c'est Speedy Gonzalez, quoi. Là, on est... Bon, alors qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais bien m'intéresser un peu aux problèmes des uns et des autres. Mais alors, Sébastien, je t'interdis de prendre un verre avec...
Mais si, t'as envie de lui dire que tout va bien se passer.
Chez l'inspecteur du travail, tous les samedis, s'incruste chez son copain libraire. Et il reste jusqu'à, je sais pas, 1h du matin
à boire.
Sa femme a picolé, la femme du libraire, parce que lui est célibataire et ne se remet pas de sa rupture avec une certaine Isabelle. Mais le libraire est marié. Il y a sa femme, la femme du libraire, qui arrive et dit : « Je vous fais des pâtes ? Vous voulez vous faire des pâtes ?» Oui, c'était une femme merveilleuse, parce qu'évidemment, elle ne s'incruste pas, la femme. Donc,
mais il y a plein d'autres personnages.
Il fout en l'air la vie de la fille privée de son copain libraire. Il est, mais d'un bon, bref. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait
la
pas
figure
non
ultime
plus
de
énormément
la
de littérature. Donc, moi, j'ai rien contre un grand roman populaire, Page Turner, ce que j'ai cru pendant 200 pages, et après, j'en pouvais plus. Parce que je trouve qu'à un moment donné, ça fait du surplace, il ne se passe pas grand chose.
Ah oui. Tu étais passé la page 200, tu aurais vu.
Ça devient Tolstoï, page 200.
Complètement. Tolstoï sous kétamine. Non, mais c'est, moi j'ai trouvé que c'était un vrai bon roman populaire. Et oui, il y a plein de choses, mais c'est ça qui est génial. Et c'est la façon dont Sophie d'Ivry parvient à tout tisser ensemble. Il y a Une image qui revient tout le temps dans le bouquin, c'est un Rubik's Cube. Maya, la journaliste scientifique, joue toujours avec son Rubik's Cube. Et c'est exactement ce que fait Sophie Divry, c'est-à-dire qu'elle arrive à faire coïncider toutes les pièces qu'elle met ensemble, c'est-à-dire ce polar, cette histoire d'amour, la comédie, et surtout ce qui est très intelligent, c'est que...
C'est la métaphore.
Non, pas du tout. Avec un livre très divertissant, pour les gens qui
aiment rire. Aller au bout.
Non, moi je trouve que c'est un livre très divertissant. Elle arrive à faire passer une critique du monde du travail extrêmement corrosive. Et ça, je trouve que c'est un tour de force. Et moi, en fait, j'ai pensé plutôt à Infinite Jest de David Foster Wallace, où il y avait cette vidéo qui circulait chez les gens et qui était tellement addictive qu'elle pouvait tuer. Et en fait, la compacteuse dans laquelle se retrouve ce pauvre ouvrier, elle a aussi qu'elle est totalement addictive. Et donc, elle broie ceux qui viennent à elle. Et là aussi, c'est ça la métaphore du monde du travail.
Comme le
qui
travail.
Nous broie et qui nous fait passer à côté de quoi? De l'essentiel. De l'amour.
Ce sera le mot de la fin. Fantastique histoire d'amour de Sophie Divry est parue au Seuil. C'est l'heure de vos coups de cœur en version un peu accélérée. Nelly, tu ouvres le bal?
Alors oui, avec Nicolas Mathieu. Le ciel ouvert.
Qui sera au programme du prochain masque livre, d'ailleurs.
Qui paraît le 7 février chez Actes Sud et que j'ai trouvé mais absolument sublime sur l'amour. Sur l'amour, je n'ai jamais rien lu d'aussi beau, je crois. Mais oui, vraiment, je vous le dis. Et pourtant, j'ai beaucoup lu de livres sur l'amour. Et là, c'est des textes qui sont parus au départ sur Instagram, donc il y avait tout avec des illustrations. Il y avait tout pour me refroidir. Et il parle de l'amour entre un homme et une femme. Il parle de l'amour entre un homme et son fils. Il parle de l'amour entre un homme et son père. On sent que c'est autobiographique et c'est sublimissime. Et juste un truc, parce que la dernière fois j'avais dit que je commençais à lire Le Convoi, là je l'ai terminé, donc vraiment lisez Le Convoi de Beata Umumbiei Meres chez Flammarion, c'est sur le Rwanda, une survivante du Rwanda, sublime aussi, magnifique.
Elisabeth.
Alors moi c'est une découverte, c'est une autrice finlandaise qui s'appelle Pirkko Seesiö et le livre est intitulé Le plus petit dénominateur commun, c'est chez Robert Laffont et c'est traduit du finnois par Sébastien Cagnoli. Alors c'est le premier volume d'une trilogie autobiographique et si vous avez aimé Déborah Lévy, vous adorez Pirkko Seesiö. Elle a le même art que Déborah Lévy pour nous rendre son monde étrangement familier. Tout d'un coup, on a l'impression de faire la connaissance d'une amie dans cette Finlande des années 50-60, communiste. Et elle raconte son histoire à la fois à hauteur d'enfant et ensuite, elle donne le point de vue adulte. Donc, il y a toujours un dédoublement de la narration et en même temps, c'est extrêmement fluide. Et puis, alors, on fait certes la connaissance d'une amie, mais surtout d'une écrivaine qui a un style poétique, lumineux, imagé, c'est magnifique.
Redonne le nom et le titre.
Le plus petit dénominateur commun de Pirkko Seesiö chez Robert Laffont.
Laurent.
Moi, il s'agit de. Enfin, je ne sais pas si c'est un coup de cœur, c'est un coup de projecteur sur un roman pornographique d'une fille qui signe, parce que j'imagine que ce n'est pas son vrai nom, Claire von Korda. J'avais lu une de ses nouvelles parce qu'elle écrit dans des fanzines, des anthologies. J'avais été très impressionné. Je suis allé en ligne pour voir, pour en savoir plus. J'ai vu qu'elle faisait de la musique, des illustrations et qu'elle avait écrit un bouquin porno dans une collection très spécialisée, vraiment le bas de gamme de l'édition pornographique, des trucs qui sont planqués dans les recoins des relais H. Je l'ai lu et c'est absolument médusant. C'est le chaînon manquant entre la dépente des débuts, celle de Besmois et des chaînes savantes, et Bayon, pour ceux à qui cette référence dira quelque chose. Ça veut dire que d'un point de vue stylistique, c'est pas n'importe quoi, et ça me ravit parce que ça prouve bien que la littérature ne se décrète pas, il ne suffit pas d'être publié aux éditions de minuit pour que ça en soit, et ça n'est pas parce qu'on est à branlette triste publishing que ça n'en sera pas.
Alors on va.
Ça s'appelle donc Insatiable, et c'est Claire von Korda.
À toi.
Un choix entre Nelly et Laurent. C'est complément à la théorie sexuelle et sur l'amour de Pascal Quignard. Donc c'est le plus beau livre que j'ai lu sur l'amour, beaucoup plus beau que celui de Nicolas Mathieu encore.
Non, ça va pas. Mais tu l'as pas lu.
Mais Nicolas Mathieu. Ah, si, malheureusement.
Non, mais si on est au coup de cœur. On est au coup de cœur.
Bon, ouais. En tout cas, toujours est-il que, en ce moment, vous voyez, où l'État, je ne dis pas le président de la République, parce que je vais me faire encore engueuler, on parle de réarmement démographique. C'est-à-dire, ouais, vraiment les termes les plus laids qu'on puisse utiliser pour parler de l'amour et de la sexualité. Quignard sort un gros livre. Pourquoi ? Parce qu'il a vidé son disque dur de tous les textes qu'il n'avait pas encore publiés, des textes de conférences, des textes pour des revues, souvent d'ailleurs de psychanalyse, avec donc, on le sait tous, la sexualité est le sujet de Pascal Quignard, et alors toujours avec le rapport qu'il a très fort avec deux choses, la mythologie et l'étymologie. Par exemple, il vous explique, et je pense qu'on devrait en prendre de la graine, que la censure, dont tout le monde parle en ce moment, vient du mot sens, et le sens, c'est l'impôt qui nous permet de participer à la société. Donc voilà, rien que ça, on a appris quelque chose. Donc
sur l'amour, ouais.
Fiction et compagnie. Bah, la censure, et oui, a à voir avec la sexualité.
Il faut qu'on termine.
Et avec la pornographie, on comprend.
Pour terminer, je vais aller très vite. Pour ma part, mon coup de cœur est un podcast qui s'intitule Bookmakers et qui est une plongée dans la fabrique du neuf grâce à des entretiens fouillés menés par un garçon qui s'appelle Richard Guettet. Vous pouvez les écouter sur Arte Radio et c'est gratuit. Donc, 3 fois 1 heure avec un auteur ou une autrice. Déjà, rien que le format, c'est exceptionnel. Et c'est plusieurs autrices et auteurs, évidemment, se sont pliés à l'exercice. Philippe Jaénada, Constance Debré, Lola Lafont, Chalumeau Laurent, ici présent. Et donc, c'est totalement en dehors des circuits promotionnels. Ça questionne la fabrique de l'écriture, les inspirations, un parcours. Ce sont des auteurs qui n'ont rien à vendre sur le moment de l'entretien. Et en plus, c'est édité par Arte Éditions et Point, ce qui permet de revenir sur certains passages. Et ce sont des entretiens qui sont édités dans une version augmentée. Ont paru Alice Zeniter, Nicolas Mathieu, encore lui, et Hervé Le Tellier. Merci à tous les quatre, Nelly, Arnaud, Elisabeth... Et Laurent, dans une semaine, nous traiterons de l'actualité du cinéma et les prochains enregistrements du Masque auront lieu le jeudi 15 février pour parler à nouveau de livres et de films. Guillaume Giraud a réalisé cette émission avec Marie Le Peintre, Pierre Lemaire, Julie Garraud et Méloé Chaloni. Merci à Ilinka Negulesco pour la préparation au cordeau avec l'aide précieuse de Célestine Babinet. Rendez-vous dimanche donc pour de nouvelles aventures sur France Inter, évidemment.